Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce et te demander encore maintenant ton illumination, ton aide, ta présence, afin que ta parole qui est la vérité et qui nous affranchit, ta parole qui est la vérité et qui nous fait grandir, puisse continuer son œuvre et qu'ainsi toute la gloire te revienne en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je voudrais poursuivre avec les éléments de la profession de foi. Vous vous souvenez, la fois passée, la dernière fois que j'ai prêché, je vous ai parlé de ce projet, de cette série que je voulais faire sur les différents articles de notre profession de foi. Et donc, nous avons commencé avec le premier article de notre confession de foi qui dit « Nous croyons en un seul Dieu personnel, créateur des cieux et de la terre, esprit, lumière, amour, vérité, éternel tout-puissant, infaillible, immuable, infiniment sage, juste et saint. Ce Dieu unique, existant éternellement en trois personnes de même nature, se révèle dans la Bible comme Père, Fils et Saint-Esprit. » Alors, nous avions abordé la première partie de cette profession de foi à travers le psaume 50. Je ne reviendrai pas dessus, c'est une publicité non commerciale de savoir que nous avons les messages sur notre site et que ce serait très bien de pouvoir visiter notre site pour écouter les messages que vous avez éventuellement ratés. Il y a toujours moyen, donc je ne vais pas revenir sur ce qui avait été prêché la fois passée. Mais ça concernait la première partie, c'est-à-dire nous croyons en un seul Dieu personnel, créateur des cieux et de la terre, esprit, lumière, amour, vérité, éternel tout-puissant, infaillible, immuable, infiniment sage, juste et saint. Aujourd'hui, nous allons aborder cette deuxième partie de ce premier article, à savoir ce Dieu unique existant éternellement en trois personnes de même nature se révèle dans la Bible comme Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons maintenant donc aborder cet aspect-là aussi. C'est une prédication. Ce n'est pas un cours de théologie. Malheureusement pour vous, on va quand même faire un tout petit peu de théologie, mais vraiment un tout petit. C'est un rikiki, quoi. Hein. C'est pas beaucoup. Mais il faut aborder parfois certaines choses de cette façon-là. Vous savez que qu'est-ce qui fait notre base, notre dépôt de foi? C'est le fait que nous avons un ensemble de choses sur lesquelles nous fondons notre foi. Et ce sont ces choses qui sont les bases de notre vie en tant que croyants. On ne se rend pas toujours compte de ça parce que nous vivons, parce qu'on nous prêche, parce qu'il y a des responsables, parce qu'il y a des enseignants, et on ne se rend pas toujours compte que, en fait, nos vies sont dirigées par des principes, des convictions qui sont fondées dans la Bible. Alors, nous allons aborder aujourd'hui le thème de la Trinité. La Trinité qui est aussi un fondement de notre foi, une doctrine fondamentale de notre foi, même si elle n'est pas écrite dans la Bible. Nous allons l'aborder quand même et j'expliquerai. Nous allons l'aborder à travers un texte de l'Évangile. Nous allons lire tout l'Évangile de Jean au chapitre 14 et nous allons là asseoir notre point de départ sur cette foi en un Dieu unique qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, nous allons lire tout le chapitre et nous allons donc voir déjà se dessiner ces éléments de la Trinité. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Oh, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Waouh! Alors quand quelqu'un lit ça, il se dit, oula! Jésus parle pas seulement de lui, il parle de son Père, mais il parle d'un autre Consolateur, Esprit de vérité, etc. Il y a là une dynamique de trois personnes, de trois personnalités qui se dégagent. Je vais essayer d'aller quand même vite. Donc, ceux qui font la théologie, Adrien, souffre que je sois très 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 limité dans tout ce que je veux dire. Je ne parlerai pas de toute la conception, la procession, la conception ontologique. Je ne vais pas parler de tout ça, d'accord? On va juste rester dans la base biblique pour que le peuple de Dieu, pour que nous tous, nous puissions asseoir notre foi, nos convictions sur le fait que nous croyons en un Dieu trinitaire. Le Dieu unique existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce texte que nous venons de lire exprime non seulement cette réalité-là de la bouche du Seigneur Jésus lui-même, mais montre déjà que ce n'est pas simplement une relation de trois personnes qui est passive. C'est une relation dynamique, vivante, une relation dans un rapport de travail. C'est une solidarité dans un projet commun. Le concept d'un Dieu unique en trois personnes distinctes est vraiment la marque déposée de notre Dieu. Vous voyez, certains vins ont des appellations contrôlées, on a des labels. Coca-Cola a refusé de donner son petit secret parce que son secret impliquer que c'est sa marque déposée. Effectivement, si vous prenez le Coca-Cola, vous prenez le Pepsi-Cola, vous prenez le River-Cola, vous prenez le Dr Pepper ou je sais pas quoi, etc. C'est tous des boissons de la même couleur, du même goût peut-être, mais celui que vous allez aimer le plus, c'est le Coca. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce que le machin qu'ils ont mis dedans pour que le Coca soit plus attractif? On ne sait pas. Dans le temps, on les avait même soupçonnés de mettre de la cocaïne dedans. Enfin bon, ça c'était le passé. Oui, c'est la marque déposée. Il y a quelque chose que Coca a là, et quand les concurrents demandent, ils disent, ah oh, ça je ne dis pas. C'est moi. Je ne dis pas aux autres. Notre marque déposée, la marque déposée de notre Dieu, c'est la Trinité. C'est un Dieu trinitaire. Mes amis, souvent on nous dit, oui mais le Dieu de l'islam, le Dieu du judaïsme et le Dieu des chrétiens, c'est le même Dieu. Et nous nous répondons tout bêtement, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas vrai, c'est pas le même Dieu. Le Dieu du judaïsme n'acceptera jamais qu'il y a un Père et un Fils et qu'il y a un Saint-Esprit. Ouais, Saint-Esprit l'accepte très bien. Mais un Fils et qui serait Jésus, le Dieu de l'islam, vous savez vous-même que les musulmans imaginaient un Dieu qui a un Fils, c'est leur faire cogner la tête au mur, hein. Notre Dieu est un Dieu trinitaire. C'est sa marque déposée. Nous n'avons donc pas le même Dieu. Nous avons un Dieu spécifique à nous, le Dieu des chrétiens. Nous croyons en la Trinité. La Trinité, c'est-à-dire la tri-unité, l'unité de trois personnes. On ne parle pas de trois dieux. Ce n'est pas la trithéité, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est l'unité de trois personnes en un seul Dieu. Nous sommes des monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons en un Dieu unique, mais qui s'est manifesté en trois personnes. Je vais proposer juste un plan en trois points. Et juste ce point-là pour simplement avancer avec la question. D'abord, peut-être le premier point, c'est l'unité de Dieu. Le deuxième point, ça sera les trois personnes de Dieu. Et le dernier point, parce que ces choses sont importantes, pas seulement théoriquement, comme une théorie qu'on va dire, ouais, c'est la marque déposée entre Dieu, il est un Dieu de la Trinité, c'est un Dieu trinitaire, point barre. Non, ça a aussi des implications concrètes. Et nous allons voir aussi, en troisième point, les implications concrètes de la théorie ou de la doctrine de la Trinité. D'abord, le premier point, l'unité de Dieu, c'est indiscutable. Monothéisme, un seul Dieu. Et le sujet, c'est vrai, il est vaste, mais le Dieu unique, on en parle dans la Bible. Je propose la lecture de ce fameux schéma Israël, là où Dieu dit clairement au peuple, alors qu'ils sont aux portes de la terre qu'ils vont conquérir, Dieu parle encore une dernière fois dans le livre de Deutéronome. Il leur parle. J'aime beaucoup le livre de Deutéronome. J'aime bien tout le Pentateuque, mais j'aime aussi beaucoup le livre de Deutéronome parce que c'est un moment où je peux imaginer un père de famille qui voit ses enfants devenir grands. Ils vont quitter la maison et les fait asseoir. Mes enfants, écoutez, voilà le parcours de notre vie. Voilà d'où nous sommes partis. Voilà où nous sommes allés avec la vie. Voilà les grands points importants que j'ai voulu vous transmettre tout au long de votre vie d'enfant. Maintenant, vous êtes devenus des adultes. Maintenant, vous allez prendre en charge votre propre vie. N'oubliez pas, rappelez-vous. C'est ça la thématique de Deutéronome. Rappelez-vous, souvenez-vous d'où nous sommes partis. Souvenez-vous les grands principes de Dieu. Alors, nous allons regarder un principe que Deutéronome chapitre 6, le verset 4, un principe que Dieu énonce lorsqu'il parle au peuple d'Israël. Il leur parle de lui. Il va introduire là tout un développement où il va expliquer en quoi il est le Dieu d'Israël. Voilà la phrase qu'il va dire. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. dans d'autres versions, c'est « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est unique. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le seul Dieu. » Et le peuple d'Israël, cette formule est une formule qu'ils récitent tous les matins. C'est leur prière du jour. Chaque jour, ils se rappellent que leur Dieu est le seul. Il est l'unique. Un seul Dieu. Pas plusieurs dieux, mais un seul Dieu. D'autres passages bibliques, on va voir Exode chapitre 20. Dieu qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi? Parce qu'il est le seul Dieu qui existe. Nous avons vu aussi la fois passée, quand on a regardé le texte, il disait par exemple dans le prophète Ésaïe, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Toutes les autres divinités sont des inventions, c'est des idoles, c'est des trucs faits dans des bois. Je suis le seul Dieu. Donc nous, les chrétiens, nous sommes des monothéistes, nous croyons en un seul Dieu. Et ça fait pas l'ombre d'un doute. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et peut-être ça vient renforcer ce qui avait été dit en premier lieu. Nous avons un Dieu unique dont nous connaissons les attributs. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu véritable. C'est un Dieu qui dit une chose et il l'accomplit. N'est-ce pas Jacques qui va dire que toute lumière, que toute chose vient de la part des pères de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est un Dieu qui ne change pas. Il tient parole. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Même beaucoup plus tard, même si des années doivent passer, Dieu tient toujours parole. C'est notre Dieu. Je voulais vraiment appuyer cette idée que nous avons un seul Dieu. Et donc, il y aura beaucoup de discussions que les gens disent à propos de la Trinité. Hein, les gens disent, oui, mais la Trinité, ça veut dire qu'il y a trois dieux, c'est pas normal. Et puis, comment est-ce qu'un homme peut être dans Dieu, et comment Dieu, etc. Mais nous partons du principe qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, un Dieu unique. Ce que je veux maintenant introduire avec le deuxième point, je dis d'avance que c'est vraiment entrer vraiment dans la question de la Trinité. Je vous dis seulement que nous les chrétiens, nous croyons à la Trinité. En général, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les anglicans, nous croyons à la Trinité. Cependant, à l'intérieur du christianisme et particulièrement du protestantisme, il y a des courants qui ne sont pas pour la Trinité. Et en général, heureusement peut-être pour nous, ils sont plus sectaires, reconnus officiellement comme des positions sectaires que des positions reconnues. Unanimement, nous croyons à la Trinité, mais il y a des courants qui sont contre la Trinité. Bon, les témoins de Jéhovah, vous connaissez déjà, ça c'est pas très difficile à connaître, mais nous avons d'autres courants au sein de la mouvance pentecôtiste. Il y a des églises qui sont des églises qu'on appelle unitaristes, qui refusent la Trinité. Donc si vous tombez sur un courant qui refuse la Trinité, vous savez qu'il y a un petit souci biblique avec ça. Vous allez le voir d'ailleurs. Deuxième point, les trois personnes de Dieu. D'où vient que un homme au deuxième siècle, qui s'appelle Tertullien, c'est un théologien, un des pères de l'Église. D'où vient que Tertullien va exprimer cette grande vérité de l'existence de trois personnes en un Dieu unique? Comment cet homme est-il parti pour pouvoir le dire? Quels sont les éléments bibliques qui l'ont amené à parler de ça? Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous avons des traces d'un, non pas de trois personnes, mais d'une pluralité dans la personne de Dieu. Premier élément, vous connaissez Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Et vous savez, je ne sais pas si vous savez, que Dieu est traduit par Elohim. Et je ne sais pas si vous savez, Elohim, c'est le pluriel. C'est les dieux au pluriel. Bizarre. On avait déjà parlé de ça la fois passée. Bizarre parce que il dit les dieux et puis ensuite créa. Est-ce que c'est une faute de français? Non, c'est pas une faute de français. C'est des traces. Et lorsqu'on voit le schéma de la création, on voit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui planait. L'Esprit de Dieu, Dieu, etc. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons des éléments, d'autres éléments qui viennent montrer qu'il y a une pluralité dans la personne, dans le Dieu unique. Vous savez d'ailleurs que le commencement de l'Ancien Testament, la Genèse, au commencement Dieu créa, vous savez aussi que nous avons aussi dans le Nouveau Testament un corollaire qui est le prologue que Jean-Paul nous a lu, où il y a aussi la même chose, au commencement était la parole, etc., etc. Pourquoi est-ce que Jean, celui qui a écrit l'évangile, est-il revenu sur cette question, mais cette fois en introduisant la personne de Jésus-Christ comme Dieu? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toujours dans l'Ancien Testament, nous avons des traces. Regardez par exemple le psaume 45, nous allons lire le verset 7 et 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès, la casse parfume tous tes vêtements. Dans le palais d'ivoire, les instruments encore te réjouissent. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Alors, un seul Dieu, ou il y a Dieu qui parle avec Dieu? Un autre texte, psaume 110, et je crois que le psaume 110 est abondamment repris dans le livre, dans la lettre aux Hébreux que nous avons dans le Nouveau Testament. Psaume 110, le verset 1, ça aussi c'est quelque chose qui parle de Dieu, mais de Dieu dans la pluralité. Psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Qui s'assoit à la droite de Dieu? Qui peut être à la droite de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Et lorsque nous écoutons le prophète Ésaïe, Dieu parle aussi d'une autre personne. Ésaïe chapitre 9, nous connaissons ce texte puisque nous le lisons chaque fois à Noël. Car, c'est bizarre ça quand même, tu n'as pas la même version que moi. Bon, ça va, c'est bien. Car un enfant nous est né, c'est pas grave. Je crois qu'il faut prendre plutôt de 6 et 7 chez toi alors. Chez moi c'est 5 et 6, vous voyez, on peut se bagarrer comme ça, mais en fait il y a des décalages dans les versets, je sais pas pourquoi. Mais nous prenons le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, n'est-ce pas? Et la domination reposera sur son épaule. Regardez comment on appelle cet enfant. Pourtant, c'est Dieu qui annonce ça. On l'appellera admirable. Ok, admirable, ça va. Conseiller. Ah, Dieu puissant. Oh là là. Père éternel. Il n'y a plus de confusion. Pour un juif, Père éternel, c'est Dieu. Ok? Père éternel, prince de la paix. Vous voyez, Dieu puissant. Père éternel. Il s'agit de qui? De Dieu encore? Non, il s'agit de quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Donner l'empire et de l'accroissement à l'empire, de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. La notion de l'éternité, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Des traces dans l'Ancien Testament, des traces qui évoquent la pluripersonnalité de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, vous le savez, là il y a une affirmation encore plus précise sur la Trinité. Et c'est ce texte que nous avons lu au début, sur lequel je vais m'appuyer. Jean chapitre 14. Nous avons vu que Jésus parle de son Père. Et c'est vrai, les disciples, c'est pas qu'ils sont bêtes. Moi je serai là, je poserai les mêmes questions parce que c'est un peu incompréhensible ce que Jésus raconte. Et Jésus dit, mais attends, mais tu nous parles de Père, alors montre-le-nous. Et lui, il dit quelque chose de très mystérieux. Ben oui, mais ça fait longtemps que tu m'as vu, Philippe. Et tu ne m'as pas encore connu. Sous-entendu, mais je suis Dieu aussi. Oh, Dieu aussi. Voyez ? Et tout doucement, il va le dire, le Père est en moi, je suis dans le Père. Et nous voyons se présenter à travers ce texte trois personnes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'aime bien ce qu'il dit à propos du Saint-Esprit. Il ne dit pas le Saint-Esprit tout simplement, il dit un autre consolateur. Un autre. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait déjà. C'était lui-même, Jésus. Un autre consolateur. Un autre avocat. Un autre paraclet. Un autre défenseur. Parce que Jésus est déjà le défenseur par ce qu'il va faire à la croix. Les fonctions sont différentes, mais les rôles sont les mêmes. J'aimerais peut-être juste attirer deux remarques à ce propos de la Trinité dans ce texte du chapitre 14 de Jean. Première remarque, la Trinité ne veut pas dire trois dieux, comme j'ai dit, mais trois personnes en un seul Dieu. Et la Trinité, pour montrer cela, la triunité, c'est-à-dire la unité de trois personnes, fonctionne avec un principe qui est qu'il y a une solidarité entre les trois personnes de Dieu. Ce n'est pas que Jésus va à gauche, le Saint-Esprit va à droite, et Dieu va de l'autre côté. Ça n'a rien à voir. C'est tous les projets, ils le font ensemble. Tout ce en quoi ils s'investissent, c'est ensemble. Et donc, on maintient l'unicité de Dieu. On maintient l'idée du monothéisme. Donc, Dieu bouge dans le même sens. Il y a une solidarité et une unité totale, même dans tout ce qui se fait dans la personne de Dieu. Première remarque. La deuxième remarque importante, c'est que la Trinité souligne que le fondement de cette unité, c'est l'amour. Dieu est amour. Et cela se vit déjà dans cette relation à l'intérieur de la divinité. Il y a déjà cette relation d'amour. Mais ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas une relation d'amour où nous sommes dans l'égalité parfaite. Vous avez remarqué, Jésus va dire que Dieu est plus grand que lui. Il reconnaît la préséance de Dieu sur lui. D'ailleurs, il est le Fils, Dieu est le Père. Et il montre sa soumission à l'égard du Père. Et pourtant, Jésus est Dieu. D'autres textes vont dire quoi ? Qu'il n'a pas voulu regarder comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Mais il s'est humilié, prenant la condition de mortel, enfin, la condition de pécheur, etc., sur la croix. Voyez, l'amour n'exclut pas qu'il y ait une préséance. Et pourtant, la préséance n'exclut pas qu'il y ait égalité. Waouh ! Vous voyez un peu une application de ça dans le mariage ? Waouh ! L'homme ne va pas dire, je domine ma femme ? Oui, ok. Mais la femme devrait dire, mon mari, c'est mon chef. Waouh ! Et pourtant, ils sont égaux. Matthieu chapitre 17, verset 5. Parce qu'ils vont me dire, mais Gaston, tu racontes des trucs, ça vient d'où ce machin que tu racontes là ? La montagne, ils sont sur la montagne avec quelques disciples et ils arrivent sur cette montagne. Voilà Jésus qui est transfiguré. Et on voit qu'il se met en compagnie de Moïse et de qui encore d'autre ? Vous ne connaissez pas l'histoire de la transfiguration ? Ah ! Voilà, heureusement. Eh bien, une fois que tout ça s'est passé, pendant qu'il parlait encore, c'est ça le verset 5, Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous voyez ? pas seulement mon fils bien-aimé, mais il est le sujet de mon affection. J'ai pour lui un amour, oh, comme diraient les jeunes, je le kiffe. Je le kiffe. C'est ça le mot, hein, les jeunes. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui. Je l'aime. Je l'aime. La Trinité a pour fondement l'amour. Une relation d'amour. Une relation d'amour dans laquelle chacun a sa place. Chacun reconnaît l'autre dans sa place, dans sa réalité. C'est-à-dire, Dieu, c'est le Père, c'est mon Père, je me soumets. Plusieurs textes, plusieurs versets dans les textes que nous avons lus montrent à quel point Jésus se soumet. Il dit, les paroles que je vous dis ici, tout ce que je vous raconte, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Je parle des paroles de Dieu, c'est Dieu qui m'a dit de le dire. Il ne fait que obéir à Dieu. Et pourtant, il est Dieu et il vit dans l'égalité. Même chose pour le Saint-Esprit, très discret. On ne l'entend pas, on ne sait pas, on croirait. Vous savez que pendant des générations, des théologiens se sont battus, hein, parce qu'ils voulaient savoir si vraiment le Saint-Esprit est quand même Dieu ou un tout petit peu en dessous de Dieu. Et il y a eu des débats comme ça terribles, parce que le Saint-Esprit a un ministère tellement discret. Enfin, apparemment discret. Apparemment. Parce que nous savons, nous, les bénéficiaires du travail du Saint-Esprit, nous savons que c'est un boulot immense. Un très grand boulot. Mais c'est un boulot qui est fait dans la discrétion, dans le silence, à bas bruit. Pas de tambour, pas de publicité, il n'y a rien qui se voit. Mais il y a quelque chose qui se fait de l'intérieur. Trois personnes en un seul Dieu. Trois personnes, nous allons reprendre plus tard les différentes personnes de la Trinité. On parlera de Jésus prochainement et puis du Saint-Esprit. Mais ce matin, je voulais juste planter le décor que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu trinitaire. Si on vous demande la différence entre le Dieu des autres religions monothéistes et notre Dieu à nous, vous dites qu'il y a une différence. C'est que notre Dieu à nous est un Dieu trinitaire. Mais la Trinité, ce n'est pas du tout le fait qu'il y a Dieu qui va à l'ouest, l'autre qui va à l'est, l'autre qui va au nord. Non, c'est une danse. C'est un prof de théologie qui n'est plus là, mais qui nous disait toujours, c'était Dieu danse. Les trois personnes de Dieu dansent dans la même direction. Quand l'un fait comme ça, tout le monde fait comme ça. Ils vont tous dans le même sens. Et quand ils changent de position, c'est dans le même sens. On pourrait dire, c'est le même projet qu'ils partagent et ils se soutiennent. Nous allons le voir d'ailleurs dans le troisième point. Le troisième point, l'implication pratique. En quoi est-ce que la doctrine de la Trinité est utile pour les croyants? Pourquoi c'est intéressant? Quand on comprend très bien la Trinité, eh bien, nous pouvons alors saisir d'abord une première chose, c'est l'œuvre de la création. On ne peut pas comprendre la création sans voir l'implication de trois personnes de la divinité. Vous voyez les descriptions déjà au début, il y a l'Esprit de Dieu qui planait, il y a la dimension spirituelle, il y a la manifestation de la personne de Dieu qui agit et qui fait l'homme à sa ressemblance, n'est-ce pas? Et l'homme qui est à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas que c'est un être avec aussi plusieurs dimensions. Nous sommes un corps, nous sommes une âme et nous sommes un esprit. Enfin, d'après l'apôtre Paul. Vous voyez? Ça correspond à la présentation de cette personnalité triple qui est dans la présence de Dieu. Mais là où véritablement la Trinité éclate dans son intérêt majeur, c'est par rapport à l'œuvre de la rédemption, à l'œuvre du salut. Moi, je pense même personnellement que c'est véritablement une mise en place que Dieu a faite pour mettre en œuvre le salut, notre salut. Regardez, le Père qui a aimé, le Père qui a, le Créateur, qui ne s'est pas contenté de regarder cette humanité se perdre, aller dans le péché, aller être condamné. le Père qui prend Adam et Ève et qui les met des vêtements et qui les chasse du jardin. Ce Père qui va regarder pendant des générations cette créature qu'il aime se perdre. Il ne va pas rester indifférent. Il ne va pas dire, ouais, c'est bien fait pour lui, je l'oublie, je mets une croix dessus. D'ailleurs, quel est le parent qui a mis au monde un enfant qui pourrait dire, son enfant est malheureux, ben, tant pis pour lui, hein. Non, il n'y en a pas. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas. Je peux me tromper. C'est vrai que la paternité de Dieu en tant que père et la paternité de l'homme en tant que père, c'est pas la même chose. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a aucun père qui aurait le souci de regarder son enfant se perdre, péricliter, sans que son cœur de père ne soit touché. La plus forte raison, Dieu, le Créateur. Mais Dieu dit, j'aimerais tellement sauver ces gens. Mais c'est contre moi. C'est contre moi qu'ils en ont. J'ai un problème avec eux. Je ne peux pas aller vers eux pour les sauver parce que ils ont un souci avec moi. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Jésus a dit, me voici. Me voici. Je viens, Seigneur, pour accomplir... Pardon. Pardonnez-moi. Je viens, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Ce projet que tu as là, moi, ton fils, je vais le faire. Je vais rendre cela possible. Je vais mettre les moyens à la disposition des hommes pour qu'ils puissent être sauvés et restaurer la relation avec toi. Jésus, c'est le moyen matériel du salut. Et puis, l'aventure ne s'arrête pas là. Ok, voilà Jésus qui meurt à la croix. Ben, il y a des gens qui passent et qui disent, hey, toi, il insulte. Il y a des gens, ça leur dit quoi? Rien. Alors la troisième personne de la divinité dit, Seigneur, moi, je vais faire quelque chose, moi. Moi, pendant que Jésus meurt à la croix, moi, je vais ouvrir les yeux des hommes. Je vais les toucher et leur dire, tu vois ça? C'est à cause de tes péchés. C'est à cause de tes péchés. Tu vois ça? C'est parce que Dieu était en colère avec toi. Mais Dieu a mis un temps de paix. Il propose une trêve, une paix définitive. Est-ce que tu le saisis? Est-ce que tu le saisis? Regarde, il a versé son sang pour toi. Et de nos cœurs, nous sommes touchés, ébranlés. Et on est comme un peu dans les actes des apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous devant ce message qui nous saisit? Mais qui est l'acteur par lequel nous sommes saisis? C'est le Saint-Esprit. Il agit pour nous emmener à la repentance, nous emmener à la foi dans la justification, dans la justice de Dieu. Un autre domaine où la Trinité est impliquée, où c'est nécessaire de bien comprendre la Trinité pour pouvoir vivre cela, c'est notre vie de prière. N'est-ce pas que nous prions le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'inspiration du Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit, nous invoquons Dieu. La formule du baptême, Matthieu 28, chapitre 28, verset 20, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Conclusion. Alors, je suis un peu content de moi parce que ce n'est pas un sujet facile à prêcher en peu de temps. Mais donc, enfin bon, ça va, soit. Je ferme la parenthèse. Conclusion. Alors, ce premier article de foi, de la profession de notre foi, nous parle d'un Dieu, merveilleux. Un merveilleux créateur. J'ai beaucoup aimé cette chanson qu'ils ont chantée là, Dieu de toute grâce, trésor de bonté. Waouh ! Ça, c'est notre Dieu. Sa fidélité, son amour. Il domine toutes choses. Il est riche en bonté, lent à la colère. Mais par-dessus tout, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui a un projet avec l'homme. Un Dieu qui a voulu se faire connaître de l'homme. Et un Dieu qui veut rassembler des hommes et des femmes pour fonder une famille. La famille dont lui est le père. Et Jésus est le grand frère, l'artisan de cette famille. Celui qui rend possible cette famille. Le Saint-Esprit est ce canal, ce lien entre nous. C'est celui qui permet que nous puissions être unis parce que nous avons un même esprit. Nous sommes habités par le même esprit. Il y a un travail de Dieu. Ce Dieu merveilleux est un Dieu qui est le nôtre. Il est unique dans son genre. C'est pas le même Dieu que les autres dieux. C'est un Dieu juste et saint, mais aussi un Dieu de grâce et de miséricorde. Et qu'est-ce qu'il attend de toi et moi? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Je vais juste citer les mots-clés de ce qu'il attend de nous, parce que je ne vais pas développer ça, mais juste citer les mots-clés. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi? Dieu attend le respect, la révérence, l'obéissance, la soumission, le service. Et quand je dis service, j'ouvre la parenthèse, la consécration. Dieu attend de nous l'adoration. Pas seulement l'adoration en termes de prière, mais l'adoration en termes de mode de vie, la vie des adorateurs. Dieu attend de nous de lui donner nos vies pour que lui les dirige. Alors, je ne sais pas, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est peut-être le moment. Mais si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, que vous êtes chrétien, alors que notre vie soit consacrée à lui, encore et encore. Amen. Prions. Merci d'agir dans nos cœurs, la balle est dans ton camp, Seigneur, par le Saint-Esprit, pour faire de nous ce que toi tu veux. Au nom de Jésus. Amen.